Je remercie notre ami de nous avoir permis de nous serrer la main, les uns les autres. Et tandis que nous étions en train de nous saluer, de nous serrer la main, j'ai pensé à ce que fut pour moi la première façon de Dieu qui m'a conduit jusqu'à la conversion, jusqu'à la croix. Savez-vous que c'est par une poignée de main d'un serviteur de Dieu, sans aucune parole, une poignée de main qui m'a mis en recherche, qui m'a réellement poussé à en savoir davantage sur cet homme qui avait pris ma main, mais de tout son cœur, qui me l'avait serré, mais avec amour. Cet homme est Ralph Challis. Il est en ce moment bien malade. Plusieurs d'entre vous le connaissez certainement. Quels sont ceux qui le connaissent ici? Pourriez-vous lever la main pour voir? Très peu. Il est l'auteur du livre « Un seul chemin ». Pardon. Non, « Un seul chemin », c'est moi. Il est l'auteur du livre « Si tu veux aller loin », qui a été toute ma nourriture dans les premières années de ma conversion. Cet homme est en ce moment leucémique. Enfin, j'espère qu'il ne l'est plus, parce que nous avons prié nombreux pour lui, et nous lui avons même administré une onction d'huile de la part du Seigneur pour qu'il se relève de son mal. Et aux dernières nouvelles, il est rentré chez lui, de l'hôpital. Eh bien, c'est par une poignée de main que tout a commencé. Par cette poignée de main, mais je me suis dit, cet homme a quelque chose que je n'ai pas, que les autres n'ont pas. C'est ce qui m'a mis en recherche. Il est bon de serrer une main chère, la main d'un bien-aimé, une main amicale. Il est bon de la serrer. Mais combien il est bon surtout de serrer la main du Seigneur, de mettre sa main dans la sienne pour faire la route de la vie avec lui. Et ce soir, je vous appellerai à prendre sa main, cette main qu'il vous tend, cette main qui a été percée pour vos péchés, cette main sûre, cette main affectueuse, pleine d'amour, de tendresse, cette main de miséricorde. Cette main qu'il vous tend, ah, ce soir, vous mettrez la vôtre dans celle-là, dans la sienne, pour commencer une nouvelle route avec le Christ. Je vous y appellerai à la fin du message. Et en signe que vous le ferez, que vous mettrez votre main dans celle du Christ, cette main qui est maintenant tendue vers vous, pour votre salut, en signe que vous mettrez votre main dans celle-là, dans la sienne, eh bien, vous lèverez votre main, comme je l'ai demandé chaque soir. Et cette main levée me fera savoir que vous cherchez à mettre votre main, la main de votre cœur, de votre vie, dans celle du Christ. Et ainsi marquerez-vous votre oui, ce oui dont nous avons parlé au cours des soirées passées. Ainsi marquerez-vous votre décision, cette main du cœur d'abord, Dieu la verra, cette main physique levée, il la verra aussi, et je la verrai. Et ainsi pourrai-je prier pour vous, afin de vous aider. Cet homme dont j'ai serré la main il y a un peu plus de 25 ans, cet homme a prié pour moi. Il m'a aidé, considérablement aidé, dans mes premiers pas avec le Christ. Eh bien, parce que j'ai été aidé moi-même, je voudrais aussi prier pour vous et vous aider de cette manière-là. Vous prendrez donc une décision et puis vous lèverez votre main. Mais il faut que derrière cette main qui se lèvera, il y ait dans votre cœur un oui profond, le oui de la foi et de la confiance au Christ vivant pour nous, pour vous. ce soir. Puis ensuite, nous entendrons la chorale. Et une fois la réunion terminée, tandis que les amis se retireront de ce lieu, vous qui avez levé votre main, je vous attendrai dans ce lieu, là, derrière cette porte, pour vous rencontrer, pour vous serrer la main, bien sûr, pour la vous serrer très fraternellement, très cordialement, de la part du Seigneur, mais aussi pour vous dire quelques mots d'encouragement, et vous passer à des amis qu'on appelle conseillers, et qui, très utilement, vous aideront. Quelques instants, ce ne sera pas long, vous qui devez partir en quart, ce ne sera pas long. Nous ferons tout pour que vous ne ratiez point votre autobus, votre quart. Eh bien, je vous retrouve dans quelques instants. À tout à l'heure.
Thank you.
ces dernières dizaines d'années, ces dernières décennies, ont changé le monde de façon étourdissante. Et l'homme, cherchant à se mettre à l'aise, dans ce siècle, s'est donné un confort sans précédent dans son histoire. Il vit matériellement mieux que jamais. Et il connaît une explosion d'abondance et de consommation. Les progrès en tout genre, et surtout en électronique et en technologie, lui font espérer pour bientôt l'âge d'or du matérialisme. Il y a en ce moment un vent de matérialisme qui souffle sur la planète et qui tente d'étouffer toute spiritualité. Il faut dire que les conquêtes sont époustouflantes et que le siècle est passionnant, très passionnant à bien des égards. Nous vivons dans un siècle où l'homme se passionne facilement pour mille et une choses, sauf pour l'essentiel, sauf pour le Christ. Ceci me fait penser à mon pompiste, où j'ai coutume d'aller quand je suis à Longjumeau, dans la banlieue sud de Paris, pour faire mon plein de gasoil, puisque je marche au gasoil. Je roule plutôt au gasoil. Il y a quelques jours, tandis qu'il était là, en train de me faire le plein, il me racontait comment il a vu au-dessus de sa station service un ovni. Vous savez ce que c'est que ça, un ovni? Objet volant non identifié, ce qu'il est convenu d'appeler une soucoupe volante, un ovni. Il était là à me raconter cette affaire, mais d'une façon passionnée, tout à fait passionnée. Il m'a dit, mais cet ovni, je l'ai vu là, il était sur ma station, dans la forme d'un cigare. Puis il a bougé, rebougé, puis pour disparaître à une vitesse vertigineuse dans les yeux. Et tandis qu'il était là, à me raconter ça, je le regardais bien en face. Il me paraissait être, mais alors totalement, totalement ovnibulé. Totalement. Un siècle dans lequel on se passionne pour mille et une choses, sauf pour l'essentiel. Un monde donc passionnant par ses conquêtes. Une terre qui aujourd'hui porte une race de géants, n'est-il pas vrai? Et pourtant nos savants, qu'ils soient psychologues, sociologues, futurologues, anthropologues, nous disent généralement que nous sommes entrés dans la tranche, dans la phase de notre histoire la plus critique, la plus dangereuse. Et ils nous disent aussi que l'homme est atteint, comme jamais auparavant, d'un mal. D'un mal dont l'origine lui échappe souvent. De ce mal qu'il est convenu d'appeler le mal de vivre. Vous savez ce que c'est que ce mal de vivre? Ce mal de vivre qui fait que nous sommes mal dans notre peau d'homme moderne, de femme moderne, de jeune homme, de jeune fille. Le mal de vivre. Ce mal aussi qui fait que nous sommes mal dans ce siècle, et qui fait aussi souvent que nous sommes mal dans notre religion, dans nos croyances. Ça va jusque-là. Savez-vous qu'une statistique assez récente de l'Organisation mondiale de la santé nous fait savoir qu'à l'heure qu'il est, sur la surface de la Terre, 7 hommes sur 10, 7 personnes sur 10 connaissent des angoisses. Et qu'une personne sur 2 au moins connaît dans sa vie des troubles nerveux. Une race d'angoissés sur cette Terre, une race de nerveux. Mais jusqu'où allons-nous aller ? L'angoisse est aujourd'hui réellement le mal de notre temps. Plus que la tuberculose en constante régression, et bien plus que le cancer lui-même, l'angoisse est véritablement le fléau du siècle. 7 personnes sur 10 connaissent aujourd'hui des angoisses. Et il semble que pour ce mal-là, la science n'est pas le remède. La crise est telle chez certains qu'ils en ont perdu jusqu'à leur appétit de vivre. C'est peut-être votre cas. Votre cas, vous êtes angoissé, tourmenté, chargé intérieurement. Vous avez l'impression de tourner en rond et que jamais rien n'apportera une solution à vos difficultés. Vous êtes en crise, en difficulté dans l'existence. Gilbert Cesbron a dit « Notre siècle appelle au secours, mais il ne sait pas qui. » Jean-Paul Sartre, pour sa part, le philosophe de l'existence qui vient d'être honoré du doctorat honoris causa de l'Université de Jérusalem, ce Jean-Paul Sartre, philosophe existentialiste, a dit « Il y a en chaque homme un bleu, une meurtrissure, qui n'est autre chose que la terreur au repos. » Nous pourrions dire, ce sont ses convictions philosophiques qui l'ont conduit à de telles réflexions. Mais quand on pense à un homme comme Pierre Daninos, ce Pierre Daninos qui a pour profession de nous divertir, de nous amuser, Pierre Daninos est un humoriste contemporain, vivant toujours, auteur de plusieurs ouvrages, que j'ai pu lire, notamment le 36e dessous. Dans cet ouvrage que je vous recommande pour son honnêteté, sa clarté, et puis aussi sa vérité, parce que Pierre Daninos parle franchement dans ce livre. Ce Pierre Daninos dit, tout humoriste qu'il est, Pierre Daninos dit, avant de sortir de chez moi, et pour ne pas livrer au monde ma mine sinistre, je mets un masque. Mes amis, je mets un masque. J'essaie, poursuit-il, j'essaie à la glace un rictus. Vous savez ce que c'est qu'un rictus? Un faux sourire. J'essaie à la glace un rictus sur mon faciès cartonné, comme si on l'avait plongé dans un bain d'amidon. Mais imaginez un peu la scène. Un homme qui a pour profession de nous amuser, de nous faire rire, de nous faire passer de bons moments, le voilà en train d'essayer à la glace un faux sourire, un rictus sur son masque. Imaginez la scène. Il se met un rictus en coin, là. Il se le fige, bien placé. Et quand son rictus est là, il sort avec de chez lui. Et en passant devant sa concierge, il la salue bassement, toujours avec ce rictus. Quand il va à la pharmacie, de même, très respectueusement, il salue le pharmacien avec son rictus en coin. Mais mes amis, quelle honnêteté! J'ai failli lui écrire à ce sujet pour le remercier. Parce qu'il ose dire tout haut ce que chacun pense tout bas. Ce que chacun ne veut pas dire. Et très souvent, Pierre Daninos raconte dans ce livre, le 36e dessous, qu'on lui écrit, qu'on lui téléphone ou qu'on va jusqu'à lui pour lui dire « Mais Pierre Daninos, vous devez être l'homme le plus heureux sur cette terre par ce pouvoir que vous avez de nous faire rire. On a tellement besoin de rire dans ce monde. » Et Pierre Daninos, devant ce genre de choses, de paroles, mais de pensées, de penser, mais est-ce possible? Mon masque, dit-il, fait-il à ce point illusion? Fait-il à ce point illusion? Et très souvent, toujours à ce Pierre Daninos, on lui dit, mais monsieur Daninos, vous avez bonne mine. Vous avez une mine resplendissante. Alors, Pierre Daninos de répondre, « Eh bien oui, j'ai toujours eu bonne mine. Et je mourrai avec une bonne mine. Je mourrai avec une bonne mine. » Ah, ceci me fait penser au dernier congrès de thanatologie qui s'est tenu à Paris, au Palais de Chaillot, récemment. Thanatologie signifie tout simplement le congrès des pompes funèbres. Ce congrès qui a réuni énormément d'amis dans cette profession. Eh bien, le président du congrès, dans une intervention très remarquée, nous a promis, mes amis, la mort tout sourire. Tout sourire. Tout sourire. C'est en tout cas sa promesse. Alors, vous ne pourrez pas dire que dans ce cas, le cœur y sera pour quelque chose. On rit beaucoup dans ce monde, c'est vrai. On rit beaucoup. Ceci me fait penser à la lettre que j'ai ici avec moi, à couver dans mon courrier. La lettre d'une jeune fille qui m'a écrit après une campagne tenue dans sa ville en Belgique. Cette fille de me dire, mais je ne comprends pas ces états intérieurs qui sont les miens. Ces états de cafard, de morosité. Pourtant, j'ai des amis, je les reçois. Nous passons de bons moments ensemble. Et nous rions. Et nous rions. Et nous rions. Mais je dois vous avouer que je suis une hypocrite parce que plus je ris avec eux et plus j'ai envie de pleurer. La Bible dit, au milieu du rire, le cœur peut être affligé. Et la joie elle-même peut se finir par la détresse. J'ai entendu dire qu'ici même, tout près d'ici, près des Verrières, ils se donnent des cours de clownerie pédagogique. Vous l'avez entendu, cela, hein ? Je l'ai lu dans l'un de vos journaux il y a quelques mois. Je passais dans la région. Des cours de clownerie pédagogique qui essaient de faire découvrir à chacun, je cite, sa potentialité drôlatique. Mes amis, par des mimes, par la comédie dans un certain sens, en d'autres termes, vous avez chacun en vous un clown. Un clown qui sommeille. Ce clown-là, secouez-le, mes amis. Réveillez-le. Vous serez heureux. Vous serez heureux. Voilà où on en arrive. Et quand, dernièrement, en passant dans une rue de Longjumeau, ma banlieue parisienne, j'ai pu voir cette affiche qui nous offrait à tous un club d'hilarité. Un club d'hilarité, pour y passer de bons moments. Alors, dans ce club d'hilarité, des amis très capables racontent toutes sortes d'histoires à vous faire rouler sous la table. Et quand vous passez par des périodes difficiles, eh bien, vous pourriez vous y rendre pour vous sortir de votre grisaille intérieure. Voilà où nous en sommes dans notre siècle. Dans notre siècle en pointe, où l'homme est malade, véritablement malade. Il semble que Jean Jaurès ait vu juste. Quand un jour, cet homme de la gauche des premières années 1900, quand un jour il s'est écrié de toutes ses forces, « Je ne crois pas du tout que la vie naturelle et sociale suffise à l'homme. Dès que l'homme aura dans l'ordre social réalisé la justice, il s'apercevra qu'il lui reste encore un immense vide à remplir. » Dites-moi le vide, ça vous dit quelque chose ? Le vide intérieur. Ce vide sur lequel nos savants aujourd'hui se penchent, qui les étonne. Ce vide qui fait partie justement du mal de vivre. Et toujours ce Jean Jaurès d'affirmer « Quand vous aurez donné à l'ouvrier de quoi vivre largement, vous n'aurez pas encore fait son bonheur. » Jean Jaurès avait compris que la vie physique et matérielle n'est pas toute la vie et qu'un homme peut être comblé sur ce plan et être dans une misère intérieure, mais épouvantable. En tout cas, nos savants nous disent que ces grandes misères intérieures, ce vide, ce sentiment du vide, Ce mal de vivre est éprouvé dans les pays où le niveau de vie est des plus hauts. Et plus le standard de vie est élevé, plus ce mal de vivre intérieur est grand. Il est grand. Et je sais qu'il est grand en Suisse, pays où précisément votre standard de vie est élevé. Il est déjà grand en France. Il est grand aux États-Unis. Et partout, tout explose, justement, ce matérialisme sans bornes dans lequel nous baignons et qui nous étouffe et qui nous tue. Mais de quoi souffrons-nous au juste? Quelle est donc la nature de ce mal? Quel est ce mal dont nous souffrons, ce mal de vivre? Pour le comprendre, il nous faut bien sûr considérer l'homme, ses origines, le sens de son existence et sa destinée. Que sommes-nous, chers amis? Mais qui sommes-nous? Que faisons-nous là? Vous en avez qui subissent l'existence et ne cherchent pas à en savoir davantage. Ils sont là, ils vivotent, ils existent, ils végètent et refusent d'en savoir davantage. Mais il nous appartient, mes amis, de savoir le pourquoi de la vie. Nous n'avons pas choisi de vivre, nous n'avons pas choisi de naître. Nous sommes là sur cette terre malgré nous, bon gré mal gré, vaille que vaille. Mais il nous appartient de savoir le pourquoi de notre naissance, de notre vie, de le pourquoi de l'existence d'une façon générale. Alors, mes amis, avez-vous réfléchi à ce que vous êtes? Socrate disait déjà, mais connais-toi toi-même. Et c'est Stendhal, l'écrivain français, qui un jour a dit « Je ne me connais point moi-même. » Et c'est ce qui, quelquefois la nuit, me désole quand j'y pense. Je ne me connais pas moi-même. Il importe que nous nous connaissions, que nous sachions le pourquoi de la vie, ce que nous faisons là, tous les jours. Alors, pour le savoir, notre première réaction est de prendre et d'ouvrir notre Larousse national pour tourner jusqu'à la lettre H et nous trouver en face de l'homme pour en dégager une définition. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Alors, le Larousse dit l'homme égal mammifère, bipède, bimane, capable d'industrie et doué de parole. Voilà, mes amis, ce que vous êtes, si vous ne le saviez pas, un mammifère. Vraiment, est-ce que cette définition peut nous satisfaire, hein? Mammifère, bipède, bimane, capable d'industrie et doué de parole. Nous voulons chercher plus loin, auprès de gens qui réfléchissent, qui pensent, qui cogitent. Et nous allons vers un certain Skinner, docteur psychologue aux États-Unis, de renom, quelqu'un qui en ce moment fait parler de lui, le docteur Skinner dont j'ai pu lire certaines choses. Alors ce Skinner de dire, mais notre plus grande erreur a été d'inventer l'homme, parce qu'en réalité l'homme n'existe pas. Quand je pense que ce Skinner est un spécialiste des états d'âme, je n'irai jamais vers lui. Hein. L'homme n'existe pas. Notre plus grande erreur est de l'avoir inventé. Et du même coup, en l'inventant, nous lui avons inventé ses problèmes. L'homme n'existe pas. Il n'est qu'une super machine, dit ce Skinner. Et toujours lui, d'ajouter un super moulin à café. L'homme, c'est Skinner qui le dit, hein, dans ses ouvrages. L'homme, un super moulin à café. Un super moulin à café? Mais on ne s'étonne plus qu'il broie du noir, alors, hein? Absolument plus! Un vrai moulin à café. Et dans un certain sens, il a raison. Nous sommes là constamment à ruminer, hein? Nos problèmes, à ruminer nos révoltes, à ruminer nos questions. Nous les ruminons. Nous les ruminons constamment. Nous tournons à la façon d'un moulin à café. Nous broyons du noir, hein ? Nous broyons du noir. Karl Marx, pour sa part, a pensé que l'homme était issu de la contradiction. Nous pourrions dire, sans déformer sa pensée, que pour lui, l'homme a pour mère la contradiction. Tandis qu'après lui, l'éminent biologiste Jacques Monod, disparu il y a peu de temps, anciennement président de l'Institut Pasteur à Paris, ce Jacques Monod affirmait « Mais non, l'homme est le produit d'une somme incalculable d'événements hasardeux, d'événements fortuits. » Et là, toujours, sans déformer sa pensée, nous pourrions dire que pour Monod, l'homme a pour père le hasard. Et ce fâcheux mariage, ce malheureux mariage du père hasard, d'une part, et de la mère contradiction, d'autre part, et ce devant l'autel de l'évolution, bien sûr, a produit l'accident que nous sommes, l'accident que vous êtes, l'accident que je suis, et dont nous parle Jean Rostand dans ses inquiétudes d'un biologiste. Ce Jean Rostand qui dit « L'homme est accident entre les accidents et il traverse la vie dans l'épouvante de la mort. » Un accident biologique. Voilà ce que vous êtes. C'est une définition biologique de votre personne, de votre être. Et quand on sait ce que notre Larousse toujours donne pour définition au mot « accident », mais on ne s'étonne plus de ne pas être heureux. On ne s'étonne plus. Le Larousse dit « accident égal » événement généralement malheureux. Mais c'est épouvantable. Voilà donc où nous en sommes, mes amis, à tourner en rond. Mais nous n'en sortons pas. Et puis si nous sommes issus du hasard et de la contradiction, à notre tour, nous allons engendrer hasard et contradiction. On n'en sortira pas, mais pauvres que nous sommes. Tout cela pour mettre un trait sur Dieu, pour nous en débarrasser, mais on ne se débarrasse pas de Dieu comme ça. Et c'est Jean Rostand qui l'avoue, dans ce gros livre qui s'intitule « Dossier Dieu non », que vous avez peut-être lu. Jean Rostand dit « J'ai dit non à Dieu », mais à chaque instant, la question revient. On ne peut pas se débarrasser de Dieu ainsi, parce que nous avons été faits jusque dans nos moindres fibres, jusque dans nos chromosomes. Et ce, c'est Monod qui l'avoue, dans son livre « Le hasard et la nécessité », quand il s'étonne de trouver chez l'homme ce besoin religieux inscrit jusque dans son patrimoine génétique, textuellement, c'est-à-dire jusque dans ses chromosomes, jusque dans nos fibres les plus fondamentaux, nous crions notre besoin de Dieu. Nous le crions. Nous avons été faits pour vivre en relation, et nous y arrivons, en relation avec Dieu. Coupés de Dieu, nous sommes déboussolés, complètement déboussolés. Nous ne savons plus où nous allons. Nous errons, littéralement, à la recherche d'une solution, d'une voie. Nous tâtonnons, comme nous a dit le texte biblique tout à l'heure, comme des aveugles le long d'un mur. Et au milieu de l'abondance, dit le texte biblique, nous ressemblons à des morts. Mais quelle réalité, quelle actualité que ce texte biblique, écrit par Ésaïe le prophète, bien avant la venue du Christ sur la terre. Alors, que sommes-nous ? Qui sommes-nous ? Dieu existe-t-il ? Ceci me fait penser à un défroqué, un prêtre défroqué, du temps des Vaudois, qui parcourait pas mal de régions pour faire la démonstration à tous que Dieu n'existe pas. Vous avez entendu parler de ce Sébastien Faure, ce défroqué du temps des Vaudois. Il s'y prenait d'une drôle de façon. Devant un public comme le nôtre, ce soir, et pour faire la démonstration de la non-existence de Dieu, il lançait un défi au ciel. « Ô Dieu, si tu existes, je te donne une minute pour m'ôter la vie. Combattre les secondes. » Et les secondes commençaient de se faire entendre. Et quand la dernière seconde, les dernières secondes se faisaient entendre, notre ami Sébastien Faure, le torse bombé, fier comme Artaban de dire à ses auditoires, « Je vous l'avais bien dit, s'il était vivant, il m'aurait entendu, il m'aurait ôté la vie, je le lui ai demandé. Mais franchement, sincèrement, il n'a pas bougé, il n'existe pas. » Oh, mais heureusement qu'un jour, tandis qu'il présentait un même spectacle, il se trouvait dans la salle un chrétien. Un chrétien qui, après la dernière seconde, entendu s'élever pour lui dire « Monsieur Faure, écoutez bien, la Bible dit, le fou dit en son cœur, Dieu n'existe pas. C'est le fou qui le pense, qui le croit. Or, un fou, monsieur Faure, un fou, ça ne se tue pas, ça se soigne. Ça se soigne. » Et puis, notre foi aussi. C'est monsieur Faure, toujours, devant un auditoire, de faire la démonstration de la non-existence de Dieu. Après la dernière seconde et devant une foule très attentive, très recueillie, je dirais même très en suspense, se demandant si Dieu allait intervenir, le frapper cet homme, un pasteur se trouvait dans la salle. Il est venu jusque sur l'estrade pour s'adresser à la foule présente et lui dire « Y a-t-il parmi vous quelqu'un qui aurait sur lui une quelconque arme ? Qu'il vienne me la porter jusque-là. » Quelqu'un donc, avec une arme sur lui, est venu jusqu'à ce pasteur pour la lui tendre. Ce pasteur l'a pris cette arme pour la tendre à son tour à Monsieur Faure, en lui disant « Monsieur Faure, je vous donne une minute pour me tuer, pour m'ôter la vie, qu'on fasse entendre les secondes. » Et M. Faure était là avec cette arme aux mains. Tue pas. Se demandant vraiment. Et puis M. Faure était un homme qui ne voulait pas se faire assassin comme ça devant tous. C'est M. Faure se posait toutes sortes de questions. Tue pas. Quand la dernière seconde se fit entendre, alors le pasteur se tournant vers lui, lui reprit son arme en lui disant « Monsieur Faure, j'ai une nouvelle formidable à vous annoncer. Vous n'existez pas. Vous n'existez pas. » Mais mes amis, nous sommes fous de penser ainsi. Mais Dieu existe. Il peut être pour vous ce soir une réalité de tous les jours. Et ce Dieu-là, c'est un jour exprimé, manifesté. Il s'est projeté sur cette terre en Christ pour que nous le connaissions, pour que nous le rencontrions. Nous allons bientôt fêter Noël. Eh bien, Noël nous rappelle que Dieu s'est fait chair en Christ, qu'il est venu au devant de nous pour que nous le connaissions, enfin, pour que nous le rencontrions de tout temps. L'homme a interpellé ce Dieu-là. Il l'a interpellé comme répondant à cette interpellation. Dieu un jour s'est incarné en Christ. Et en Christ, Dieu a foulé le sol de notre terre. Il s'est fait connaître. Et Jésus a pu dire, celui qui m'a vu a vu le Père. Et ce Jésus toujours de dire aux Juifs, mais ce Dieu-là que vous dites être votre Dieu et que vous ne connaissez pas, vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa face, vous ne le connaissez pas, je viens vous le faire connaître. Ah, si ce soir nous voulons connaître Dieu, il nous faut nous tourner vers le Christ. Mais qu'est-ce que l'homme pour finir ? Alors c'est la Bible qui donne la réponse. Heureusement que ce livre est là. La Bible nous fait savoir que l'homme est une créature de Dieu. Pas n'importe quoi, pas un accident, pas un accident biologique. Il n'est pas issu du hasard, de la contradiction. Il est une créature créature de Dieu, une création de Dieu, faite à son image. Si par son corps il participe à la nature animale, par son esprit, la Bible dit qu'il est de race divine. Vous êtes de race divine par votre esprit. Et c'est pourquoi l'auteur de l'Ecclésiaste nous dit « Dieu a mis dans l'homme la pensée de l'éternité ». C'est parce que nous sommes de race divine que nous pensons à l'éternité. Regardez bien une vache en face, hein, dans vos belles prairies ici. Eh bien, elle ne vous posera jamais une question sur l'éternité. Absolument jamais. Elle est là, vivante, un jour après l'autre, mais sans se poser les questions de fond de son existence, le pourquoi de sa vie. Elle est là, j'allais dire, vivant de tous ses instincts d'animal. Mais l'homme est bien au-dessus de cela. L'homme pense, il réfléchit. Dieu a mis en lui la pensée de l'éternité. Bien mieux, il est écrit que Dieu a mis dans l'homme l'éternité, parce que dans le texte original d'Ecclésiaste 3.11, le mot « pensée » n'y est pas. Dieu a mis dans l'homme l'éternité. L'éternité est en vous, l'éternité est en moi. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'une dimension d'existence bien, bien au-delà de cette vie matérielle et physique que nous nous donnons, à laquelle nous nous bornons. Ceci nous étouffe. C'est pourquoi l'homme, au milieu de son abondance et de son matérialisme, étouffe, parce qu'il a été fait pour autre chose. Vous avez été fait pour une rencontre avec Dieu, une rencontre avec Christ. Oui, et la Bible ajoute que Dieu nous a fait pour nous aimer. Dieu vous a fait pour vous aimer. Il m'a fait pour m'aimer. Et il nous a fait pour que nous l'aimions. En retour, il nous a fait pour que nous vivions d'amour. Mais dites, tout à coup la vie prend un sens. Dieu nous a fait pour que nous vivions d'amour. Et comment se fait-il que nous sommes là à errer, sans but, complètement déboussolés, quand nous nous coupons de Dieu? C'est là notre situation et notre état intérieur. C'est là notre malheur, tout notre malheur. Vous avez été fait plus que l'animal. Vous avez été fait pour vivre, et moi aussi, heureusement, d'amour, d'absolu, de plénitude et d'harmonie. Mais dites-moi, qui en dehors de Dieu pourrait satisfaire à ses aspirations fondamentales, ses besoins profonds? Mais qui? L'homme qui est en face? Mais il a les mêmes besoins. Seul Dieu peut répondre à ses besoins profonds. Parce qu'il est vie. Il est plénitude par définition. Il est amour. Et s'il vous visitait ce soir par son esprit, de même que vous seriez alors satisfait et rempli au-dedans de sa vie, d'une vie nouvelle qui même déborderait comme nous l'avons vu hier soir. Le sentiment général est que quand nous vivons sans Dieu, il nous semble passer à côté d'une vie que nous flairons, qui devrait être meilleure. Nous avons l'impression de passer à côté, de vivre à côté, de ne pas vivre dans le mille, de ne pas être dans le mille. Que d'hommes et de femmes viennent vers moi, me disent, m'écrivent, et j'ai l'impression de passer à côté, et qu'il devrait y avoir pour moi une autre vie, une autre existence. J'essaie de la saisir, mais rien à faire. Toujours à côté, constamment à côté. Alors à cela je réponds, mais c'est ça, péché. Péché, c'est passer à côté. Pas péché, c'est manquer le but. C'est louper l'objectif. Ce mot, péché, les Grecs en usaient beaucoup. Et surtout quand ils tiraient à l'arc. Et toutes les fois où la flèche passait à côté, le Grec disait, mais tout à fait sans pensée religieuse du tout, sans « j'ai péché, je suis passé à côté ». Eh bien, péché, mes amis, c'est passer à côté de cette vie, cette existence que Dieu nous destine. N'est-il pas vrai que dans le profond de votre âme, vous avez le sentiment, la conviction de passer à côté? Qu'il devrait y avoir une autre vie pour vous. Une vie abondante, une vie faite d'amour, une vie faite de plénitude, une vie faite de joie, la joie de vivre. Jésus a dit en Jean 15, 11, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Et voilà pourquoi le Christ est venu. Il est venu pour nous replacer sur orbite. Il est venu pour que nous cessions nos errements. Il est venu pour nous placer sur le chemin qui conduit à la vie éternelle, le chemin du salut. Il est venu pour nous reprendre en main. Il est venu pour que nous sachions ce que vivre signifie. Il a dit « Je suis la vie ». Et aux Juifs qui lui résistaient, il a répondu « Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie ». Oh, mes amis, que d'angoisse, que de tourments, que de luttes, que de difficultés, tout simplement parce qu'il nous semble qu'on a été jeté sur cette terre pour rien. Il faut subir l'existence. Nous ne comprenons rien à notre vie. Et nous sommes angoissés. C'est là la source de tout, de tout ce qui ne va pas. Et c'est le péché qui nous fait passer à côté. Or, le Christ est venu pour s'occuper de cette affaire. Nous le savons. Il est venu mourir en croix pour le péché. Il est venu pour nous ramener à Dieu, pour un retour à Dieu, pour un retour aux sources. Il l'a fait par amour. Il a été pour se faire jusqu'au sacrifice suprême. C'est comme si là, en s'offrant pour nous sur la croix, il a voulu comme nous barrer la route pour nous dire « Attention, attention, où allez-vous ? Vous êtes en danger de mort, de perdition éternelle. Changez de route, convertissez-vous et soyez sauvés. » Et si l'affaire n'avait pas été grave, sérieuse, croyez-vous que le Christ aurait été jusque-là pour nous sortir d'affaire ? Il est le remède à tous nos problèmes, à toutes nos angoisses. Il a porté non seulement nos péchés, dit la Bible, mais encore ces angoisses qui résultent du péché. Ces angoisses que nous connaissons là, qui nous serrent au ventre, qui nous étranglent au cœur. Ces angoisses dont nous ignorons souvent leur pourquoi. Ces angoisses, il les a portées sur la croix. La Bible dit qu'il a porté nos péchés, mais aussi notre enfer de tous les jours. Et ce pour que jamais nous n'arrivions dans ce lieu de perdition éternelle où il n'y a plus aucun espoir. Le Christ est donc le Sauveur. Il est aussi la vie. Il est aussi notre paix, notre joie. Ce soir, vous pourriez le recevoir dans votre vie, mais aussi vous faut-il être d'accord? Si vous n'êtes pas d'accord, vous continuerez d'errer. D'errer, comme le fait Jean-Paul Sartre, tous ces philosophes de l'existence, Simone de Beauvoir, et les autres, Camus, mort dans un accident de voiture, et qui pensaient que le suicide est en réalité le seul problème philosophique sérieux. Dans le fond, chaque humain devrait penser à ça et finir avec ça. Mais ça fait peur, ça nous fait froid dans le dos. Nous avons chacun, jusque dans nos profondeurs, envie de vivre de toutes nos forces. Mais pour vivre, il faut aller là où réellement est la source de la vie. Le Christ a dit « Je suis la vie ». Et jamais homme n'a parlé comme cet homme. Voudriez-vous ce soir faire une volte-face vers lui, au-dedans, dans votre cœur? Voudriez-vous ce soir mettre votre main dans la sienne et commencer une vie nouvelle? Voudriez-vous serrer cette main qui se tend vers vous pour votre salut? Voudriez-vous ce soir dire votre oui du cœur au Christ? Oui, votre oui de la confiance, oui, dont nous avons parlé le premier soir. Mais nous avons dit, attention, il y a plusieurs oui. Attention, il y a des oui légers, des oui, toutes sortes de oui. Des oui qui mentent, des oui du bout des lèvres, toutes sortes de oui. Des oui cérébraux, des oui profonds. Ceci me fait penser à l'histoire que j'ai pu apprendre. Tandis que je visitais les puissantes chutes du Niagara. Mais quel spectacle de beauté! J'en avais été tout ébloui. Ah, s'il vous arrivait de passer par là, ne manquez pas d'aller les voir. Elles sont superbes, absolument superbes. Et combien elles parlent de la puissance de Dieu, de la grâce de Dieu, ces chutes du Niagara. Et on m'a rapporté là la fameuse histoire d'un certain Charles Blondin, équilibriste français des dernières années 1800, célèbre funambule, qui s'était promis de passer sur une corde tendue très exactement au-dessus des chutes, d'une rive à l'autre. Alors ce jour-là, pour l'unique spectacle, que de monde partout. Mais avant d'aller sur cette corde, Charles Blondin a posé une première question à l'auditoire. Dites, chers amis qui êtes venus, si nombreux, croyez-vous que moi, Charles Blondin, dont vous avez entendu parler, croyez-vous que je sois capable d'aller sur cette corde d'une rive à l'autre, exactement au-dessus des chutes, avec ma perche lourde de 40 livres, d'environ 20 kilos. Et là, toute la foule de lui répondre, mais comme un seul homme, oui. Ça ne l'engageait pas, la foule, hein. Ça engageait Charles Blondin. Charles Blondin est donc allé sur sa corde, et après avoir cherché un petit moment son équilibre, il est allé d'un pas même assez assuré jusque sur l'autre rive. Mais bien sûr, il s'ensuivit un tonnerre d'applaudissements. Mais le spectacle n'était pas terminé. Charles Blondin est revenu sur la rive où se trouvait la foule de lui poser une deuxième question. Croyez-vous, mes amis, après avoir vu ce que vous venez de voir, que je sois capable, moi, Charles Blondin, de prendre avec moi sur cette corde, à présent, Monsieur Henri Colcorde, mon chargé d'affaires ici présent. Croyez-vous que je sois capable de le faire? Toute la foule, alors là encore, comme un seul homme, de lui répondre, oui. Et ça ne l'engageait toujours pas, cette foule, hein. Ça engageait Henri Colcorde, cette fois. Et lui, Henri Colcorde, l'avait avalé de travers, littéralement. Littéralement, il a regardé vers son maître, se demandant si Charles Blondin était sérieux. Charles Blondin le regarda pour lui dire, on y va? Ouais. Il était là très hésitant, hein, ayant, pour toute réponse, fait entendre ni un oui, ni un non, hein, une espèce de ouais. Vous connaissez ça? Pas. Alors Charles Blondin de le regarder pour lui dire, c'est oui ou c'est non? C'est oui ou non? Alors, Henri Colcorde, quand même désireux de plaire à son maître, de répondre, oui, allez, on y va, oui. Et il y est allé tout tremblant, tout tremblant. Et les deux sont allés sur la corde. Bien sûr que Charles Blondin avait pris toutes les précautions possibles. Il avait dit à Henri Colcorde, surtout, monsieur Colcorde, je vous en supplie, ne faites rien, rien, rien. C'est moi qui fais. C'est moi qui travaille. Vous, je vous demande une seule chose. Faites-moi confiance. Appuyez-vous sur moi. Abandonnez-vous. C'est moi qui travaille, pas vous. Hein. Si vous voulez faire quoi que ce soit, c'est tous les deux. Alors, c'est moi qui travaille. Et les voilà partis tous les deux. Henri Colcorde, appuyé sur son maître, ils avançaient tous les deux. Tous les deux. Mais Charles Blondin n'était pas tellement rassuré. Et il ne cessait de souffler à Henri Colcorde. Monsieur Colcorde, c'est bien, continuez, mais surtout ne faites rien. Faites-moi confiance, appuyez-vous. C'est moi qui travaille. Continuez de vous abandonner. Faites-moi confiance. Vous m'avez dit oui, maintenant c'est moi qui travaille. Mais quelle image de la foi! de la foi que nous avons à placer dans le Christ. Quand nous lui disons notre oui, c'est lui qui travaille. D'ailleurs, il a tout accompli. Nous, il nous faut lui faire confiance, nous placer dans ses bras et aller sur la route, la nouvelle route, avec lui. Et tous les deux arrivèrent jusque sur l'autre rive. Spectacle inouï, enfin entre autres, parce que Charles Blondin a aussi pris avec lui dans une brouette certaines autres personnes. Mais ça n'était pas terminé ce jour-là. Il est donc revenu une deuxième fois vers la foule pour lui dire « Croyez-vous que moi, Charles Blondin, je sois capable maintenant de prendre avec moi ?» Sur cette corde, n'importe lequel d'entre vous. Alors là, toute la foule et comme un seul homme lui répondit « Oui !» Oh, Charles Blondin, paraît-il, eut un sourire, mais d'une oreille à l'autre. Toutes dents dehors. Un sourire éclatant. Alors, il a dit, mais c'est merveilleux qu'il vienne celui-là. Où est-il ? Personne ne bougea. Alors, Charles Blondin de reprendre, mais c'est bien un oui que j'ai entendu. Et toute la foule de reprendre, oui ! Ben, qu'il vienne ! Vous êtes là, une multitude à me dire oui, mais où est-il celui-là ? Personne ne bougea. Vous faites la différence, mes amis, entre le oui qui peut sortir de la tête, qui calcule, qui dit certainement qu'il peut, oui, sûrement, sûrement, mais qui n'engage pas. Et le oui du cœur alors qui, lui, engage la vie. Personne n'a voulu confier sa vie à Charles Blondin, d'entre l'auditoire, personne. Et Charles Blondin avait remarqué là, juste devant lui, un homme qui, avec les autres, avait crié « Oui !» de toutes ses forces, à gorge déployée. Charles Blondin l'a regardé pour lui dire « Vous, monsieur devant, vous avez dit oui. » Alors, l'ami devant de répondre à Blondin « Oui, j'ai dit oui. Alors, on y va ?»« Non. » Voilà ce que nous donnons pour réponse au Christ la plupart du temps. Quand on nous le présente, lui, le Fils de Dieu, mort sur la croix pour nos péchés, ressuscité, vivant aujourd'hui, l'homme le plus extraordinaire, le plus formidable, le plus grand que la terre ait jamais porté, l'homme juste, juste, l'homme parfait, l'homme sans péché. Quand nous le présentons aux foules, alors on nous répond oui. Mais quand il faut alors s'engager du cœur pour se placer, s'abandonner à lui dans ses bras, il n'y a plus personne. C'est la raison pour laquelle ce soir, je vais vous demander de dire ce oui. Non pas ce oui que la foule a répondu à Charles Blondin, personne ne bougea, mais ce oui qu'Henri Colcorde a dit peut-être avec beaucoup d'hésitation, mais ce oui qu'il a placé dans les bras de son maître. Ce oui qu'il a porté à une confiance totale en Charles Blondin. Je vais vous demander de prononcer un oui de ce genre, mais en regardant au Christ. Et ce sera alors réellement pour vous le départ d'une vie nouvelle. Ce oui vous placera dans ses bras et le Christ vous serrera dans ses bras. Il vous dira tout son amour et vous commencerez alors de vivre vraiment. Vous cesserez d'errer. Le Christ chassera vos angoisses. Il vous donnera sa paix. Il chassera votre grisaille quotidienne. Il vous donnera sa joie. Mais oui, ceci ne veut pas dire que vous n'aurez plus à souffrir. Loin de là. Vous irez sur un chemin souvent difficile. Mais dans vos difficultés, vous l'aurez, lui, le Seigneur, le Sauveur, avec vous. Vous pourrez compter sur lui. Il transfigurera vos difficultés. Il vous soutiendra dans vos luttes, dans vos combats. Il sera votre ami de tous les jours. Vous irez sur la route, la main dans la main, avec lui. Oh, puissiez-vous réellement lui dire ce oui qu'il attend ? Allez-vous le lui dire ? Lui vous a dit son oui sur la croix. Ce fut le grand oui pour votre salut personnel. Il vous a dit ce oui.
Et ce oui l'a engagé vis-à-vis de vous personnellement. Il est mort pour vous personnellement. Et le oui qu'il vous a dit, ce fut sa vie qu'il a offerte, son sang qui a coulé. Que lui direz-vous en retour ? Un oui du bout des lèvres, ça ne peut pas. Un oui cérébral, ça ne peut pas. Il faut le oui du cœur, le oui de la foi, le oui de la confiance. Le direz-vous, ce oui-là ? Je vous appelle maintenant à le dire. Nous allons glisser dans un moment de silence. Et dans ce moment de silence, vous direz votre oui. Et sitôt que votre oui sortira de votre cœur, hein, qu'il vous placera dans les bras du Seigneur, sitôt que ce oui-là aura jailli du cœur, du fond du cœur, vous me le ferez savoir en levant votre main un court instant. Savez-vous ce qui s'est passé au Québec ? Dans la ville de Québec, précisément, avec un certain ami que vous connaissez pour la plupart d'entre vous, M. Jean-Paul Bernet, qui avait eu la responsabilité d'organiser une seule réunion, mais où il y eut beaucoup de monde dans un auditorium un peu comme celui-là. Quand j'ai demandé les oui, les gens n'avaient pas compris. Sitôt le oui dit dans leur cœur, ils l'ont crié. Et nous avons entendu des gens, des Québécois, qui criaient « Oui au Christ ce soir !» Au fond, « Oui au Christ !» devant, un peu partout. Oh, je ne vous demanderai pas de crier votre « Oui ». Je vous demanderai, sitôt votre « Oui » dit au Christ du fond du cœur, je vous demanderai de me le faire savoir un instant, la main levée, qui redescend une seconde. Et ainsi, marquerez-vous votre « Oui !» Votre oui à la face des cieux, votre oui aussi dans ce lieu, vous le marquerez. Je verrai votre main, je prierai pour vous, que Dieu vous aide. On dit un oui dans son cœur silencieusement au Christ pour son salut et on lève sa main. C'est clair ? Nous prions. Peut-être êtes-vous en peine de le dire, ce oui. J'aimerais vous aider. Vous pourriez, par exemple, dire au Christ, maintenant, « Seigneur, je comprends pourquoi cet état intérieur chez moi, de désarroi, d'angoisse, de difficulté, je vis coupé de toi. » Je vis de manière déboussolée, me demandant ce que je fais là. Tu vois, Seigneur, mon angoisse. Tu vois mes luttes, mes souffrances, mes peines. Ô Seigneur, tu me vois dans ce mal de vivre épouvantable. J'aimerais en sortir, ô Dieu, ô Christ. Et tu es venu pour que j'en sorte, dites-lui. Tu es venu pour que j'en sorte. Seigneur, tu m'as fait entendre ton oui. Le oui de ton amour, le oui de ta grâce. Tu m'as fait entendre que tu m'aimes et que tu as offert ta vie pour mes péchés. Ô Seigneur, ton oui, ce oui que tu m'as dit, t'a engagé, il t'a porté jusque sur la croix. Pour moi tout seul, dites-lui. Ô Seigneur, en retour, je te dis mon oui, je te le dis de tout mon cœur. Je te le dis du fond du cœur, Seigneur. Entends mon oui, entends-le. Je mets ma main dans la tienne ce soir. Ô, je veux cette poignée de main avec toi, cette poignée d'amour. Seigneur, je veux vraiment serrer ta main, blessée, percée pour moi. Ô Seigneur, entends mon oui. Sauve-moi ce soir. Sauve-moi. Seigneur, je te dis oui. Je n'ai pas tout compris, mais je te dis oui. Seigneur, oui. Seigneur, nous voulons te remercier pour la joie que nous avons de t'appartenir. Merci pour le Christ, notre Sauveur,
venu sur cette terre pour que nous sachions qui est Dieu et pour que nous soyons sauvés. Merci pour cette rencontre de ce soir. Merci pour ta présence parmi nous. Oh, merci Seigneur, quelle joie nous avons eue de nous entretenir de toi. Toi qui donnes la paix, toi qui donnes la joie, toi qui es l'amour du Père manifesté aux hommes. Merci pour ta mort sur la croix, pour nos péchés. Merci pour ta résurrection. Merci parce que tu es vivant ce soir et parce que vivant, tu peux sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par toi. Sois béni, sois loué. Nous voulons te recommander et de tout notre cœur tous ceux et celles qui, dans ce lieu, t'ont dit leur oui silencieusement, qu'il l'ait ou non manifesté publiquement. Tu connais tout le monde ici. Toi-même, appeler les hommes à venir à toi publiquement, et c'était à la vue de tous qu'ils le faisaient. Seigneur, merci parce que c'est toi qui donnes l'exemple. Seigneur, loué sois-tu, donc pour tous ceux qui t'ont dit leur oui, sauve-les parfaitement, rencontre-les, et qu'à partir de ce soir, ils entrent dans leur salut et puissent chanter tes louanges avec ceux qui t'appartiennent. Au nom de Jésus. Amen.